Où saint Thomas parle-t-il de la prémotion divine?
Prémotion divine. La prémotion divine, c'est-à-dire surtout les collectifs qui ont parlé de la prémotion divine. Vous voyez, au fond, quand saint Thomas parle ici tout simplement de la grâce, sur ce premier, sur tout, ce sera la prémotion divine. C'est les collectifs qui ont précisé ça.
Il y a sûrement là des choses qu'il faudrait reprendre, mais c'est un très gros travail. Hein. Alors, peut-être pour nous, prenons le langage de saint Thomas.
Pas trop scolastique. Même le langage de saint Thomas. Il faut le connaître, ceux qui peuvent lire le traité de la grâce de saint Thomas. Je suis pas le droit. J'ai beaucoup, je vous l'ai dit, beaucoup lu en saint Thomas,
Mais au fond, ça présentait une ère. Hein. Je dis une ère au point de vue philosophique, au point de vue théologique. Et quand je suis arrivé à Fribourg, c'est de la petite histoire, mais c'est de la grande histoire quand même, au point de vue philosophique et de la pensée, j'ai trouvé Ramirez. Et pour comparer à Ramirez, c'était un grand ami, très différent du Perdeau, parce que le Perdeau était le mystique, et Ramirez était le professeur thomiste. Très intelligent, beaucoup plus que Garrigou. Et Ramirez était alors vraiment un homme qui avait lu tous les commentateurs de l'Aristote, qui vivait comme un ours en partie, qui ne pouvait pas supporter. Et dans le problème, notre cher père Journet, il vient chez moi comme un ours. Et je ne sais pas pourquoi, quand je suis venu, tous les soirs, il est venu me trouver pendant 3 mois, ça fait tous les soirs ensemble. C'est du temps où je pouvais travailler. Hein. Alors on avait toutes les soirées ensemble, à un dialogue serré. On ne se connaissait pas, mais on s'était rencontrés probablement. Et Ramirez, à ce moment-là, quand j'ai expliqué un petit peu le retour à Aristote, Ramirez a dit oui, vous avez raison, la scolastique se terminait. Jamais Garrigou aurait dit ça. J'ai trouvé ça très beau de la part d'un grand comme Daniel. La scolastique est terminée. Nous ne pouvons plus enseigner comme on enseignait avant. Et vous avez tout à fait raison de reprendre tout par Aristote et d'essayer de retrouver tout par Aristote, les intuitions d'enseignement. Le danger de la scolastique, c'est qu'à la place de remonter à la source, on descend fleuve. Plus on descend fleuve, plus on divise. La scolastique a divisé. Jusqu'à un moment, on s'est dit très bien, d'accord, Alors vous avez des distinctions scolastiques extrêmement subtiles, merveilleuses, condamnées de formelles, indéfiniment. Et la finalité, c'est ça le problème. La scolastique, c'est intéressant, parce que c'est pas en esprit, c'est ça. En tout cas, la scolastique, c'est bien, mettons un vrai scolastique, c'est pas ça du tout. Mais une des grosses questions que j'ai tout de suite posée à Ramirez, c'est la question que vous avez vraiment dans mon cœur, profondément, doit-on commencer la scolastique par les transcendentaux? La métaphysique par les transcendentaux. J'avais fait dans mon enquête, j'avais dit que c'était Suarez qui avait fait ça. C'est à partir de Suarez qu'on faisait ça. Alors, tous les scolastiques, mais tous les thomistes ont fait ça. Au ce soir, le père Geiger commençait la métaphysique par les transcendentaux. Alors, il me semblait que ça posait un problème de critique. Alors, évidemment, Aristote met critique et métaphysique ensemble, mais depuis Kant, nous ne pouvons plus faire ça. Nous sommes bien avec Kant à apporter quelque chose de très important. Il a apporté la distinction nette d'une critique et d'une métaphysique. Et nous devons, avec Kant, être beaucoup plus attentifs à ça. Alors, on doit avoir le problème métaphysique, on doit avoir le problème métaphysique. Les deux sont toujours conjoints. Bien, je dirais que c'est la même chose pour la théologie scolastique. La théologie scolastique, on ne la supprime pas du tout. Si on a le temps de lire Jean de saint Thomas, c'est excellent. En plus, on peut mettre son nez dedans. C'est un latin facile à lire. très facile à lire, c'est un poste qui passe très bien.
Pour
un peu,
tourner.
Un petit peu tourner, très en taille, mais ça me tire. Alors, on doit le lire dans la mesure, alors, il y a quelques grands aspects de l'Ancien Testament qu'on peut lire et qui sont intéressants. Mais se former avec l'Ancien Testament, je ne crois pas. On doit se former, nous, à Aristote, qui forme, et la théologie mystique. Alors, quand vous avez ces deux extrêmes, Aristote et la théologie mystique, vous pouvez avaler la scolastique et vous voyez comment, de fait, dans la scolastique, il y a des dégradations. Parce que la théologie mystique vous donne un sens très très aigu de la finalité. Et Aristote vous donne un sens très aigu de l'analyse, mais de la véritable analyse des principes propres. Tandis qu'en scolastique, vous ne savez plus très bien où sont les principes propres. Ça, hein, c'est très très difficile. Alors, quand on ne sait plus très bien, c'est une définition, un principe propre, et puis c'est un principe commun, vous ne voyez plus très bien, ça ne forme plus. Alors je crois qu'on a, et je dis ça c'est parce que je crois que c'est important de comprendre un peu l'esprit dans lequel on doit travailler. Alors, saint Thomas, lui, représente un tournant très important à accrocher, un peu comme Aristote si vous voulez. Aristote est un tournant au point de vue de philosophie grecque, ça on ne peut pas nier, c'est un grand tournant au point de vue de philosophie grecque. Je ne regarderai pas, je dirais, c'est pas la peine de lire trop les commentateurs d'Aristote, parce que ça n'apportera pas grand-chose. Il faut être un spécialiste, c'est très très bien, si vous avez le temps, il y a des substituts. Mais je ne vous demande pas de faire votre méditation philosophique en substituts. C'est un substitut, 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 c'est intéressant ce qu'ils peuvent. Le retour à Aristote pour se former, on n'arrive pas tout de suite à lire de l'Aristote. Alors là, il faut trouver le moyen, quoi. Au bout de quelques années, on peut le lire. Bon. Alors, on lit Aristote, on fait de la théologie mystique, et on se forme les mains, parce que saint Thomas nous donne des gammes. On ne va pas prêcher à saint Thomas, quand même. C'est difficile de prêcher à saint Thomas. Je crois qu'au bout de trois jours, plus personne ne serait à vos prédications. C'est même peut-être des deux. Alors, c'est très, très. Alors, nous allons tout de suite continuer, donc je laisse la prémotion, si vous voulez, un jour, on pourra faire un truc sur la prémotion de l'Ange de Saint-Thomas. Je veux bien, c'est intéressant. Le remettre dans l'Ange de Saint-Thomas, ça m'amuserait beaucoup, il pourrait être bien longtemps, vous plus. L'Ange de Saint-Thomas, j'étais dans ma jeunesse, d'étudiant, de l'étudiant, mais je n'ai plus vu après. Je crois qu'on a vraiment entré dans l'Aristote, c'est très difficile de regarder l'Ange de Saint-Thomas. C'est très compliqué. Il y a quelque chose qui fait qu'on a du solide, du solide, dans le cœur, on a l'impression qu'une montagne fatiguée. Vous savez, c'est de la montagne dans des. Quand on n'a pas de quoi accrocher vraiment. Ça fait toujours un peu ce que c'est là. Ça, c'est entre nous, il ne faut pas critiquer la base scolastique. Elle est assez critiquée aujourd'hui. Alors, nous avons donc vu l'article 1er et l'article 2. Ça, nous avons terminé l'article 2, je crois qu'on l'a terminé entièrement. On a l'article 3, si vous voulez bien. Avec ses seules forces naturelles et sans la grâce, l'homme peut-il aider Dieu par-dessus tout. Ça, c'est quand même très important, hein, du côté de la volonté, hein, la vie naturelle. Hein. Vous savez, au point de vue. Les vrais titres de saint Thomas sont donnés dans le premium et pas dans les articles. Hein. Dans les articles, c'est la glose marginale. Quelquefois, ça colle très bien, quelquefois, ça ne va pas très bien. Ici, sans la grâce, l'homme peut-il aimer Dieu par-dessus tout, donc ça va très bien. Voyons tout de suite ce contrat. À supposer, comme certains le font, que le premier homme a été établi d'abord dans un état purement naturel. Homo in solis adorabus constitutus ut activus dam fallitur. Donc ça c'est l'opinion des cuidames. C'est l'avantage du Moyen-Âge, c'est qu'on pouvait mettre cuidames. Vous voyez, les précisions historiques, aujourd'hui on pourrait pas mettre ça. Hein. On met des cuidames comme ça dans la situation, il y a un point d'interrogation. Tandis que Saint-Thomas pouvait le faire. Parce que le Moyen-Âge considérait que le point de vue historique, c'était ce qu'on. Tandis qu'aujourd'hui, on trouve que c'est principal. Que
que le premier homme a été établi d'abord dans un état purement naturel, il eût dû alors aimer Dieu, et non pas seulement autant que soi, ni surtout moins que soi, dans les deux cas, c'eût été péché. Il lui fallait donc l'aimer plus que soi. Par conséquent, il faut admettre qu'avec ses seules forces naturelles, l'homme peut aimer Dieu plus que lui-même et par lui. C'est intéressant, ergo Deus Deus supra ex naturalibus. Alors ça c'est très très difficile à bien préciser. Vous voyez l'hypothèse, hein ? On parle de l'état de justice originelle, pas de l'état de corruptif d'idée. Alors ça c'est très très curieux, ce souci du théologien scientifique, hein. Nous sommes en théologie scientifique, et parce que nous sommes en théologie scientifique, le souci de saint Thomas, c'est de dépasser le status d'État, le status naturel. C'est de dépasser le status naturel pour essayer de trouver la nature, les principes de la nature, les forces de la nature, hein. Ex solis naturalibus, en raison des seuls principes de la nature. Vous voyez que la nature, je l'atteins en théologie scientifique. En théologie mystique, je suis toujours en phase d'un status. En théologie biblique, je suis toujours en phase d'un status. Le status, c'est déjà un commodo, c'est déjà un comment de la nature. Ce n'est pas la seule nature, ce que nous avions déjà vu la dernière fois. Il faut arriver petit à petit à bien comprendre ça. C'est très intéressant, c'est très important. Alors, le corps de l'article, nous l'avons déjà vu dans la première partie. Nous avons indiqué les diverses opinions qui se sont aussi rencontrées touchant l'amour naturel des anges. L'homme, dans son intégrité primitive, in statu naturae integrae. Alors, oui, c'est encore in statu naturae integrae. Et ça me dit in statu. Alors, il semble bien que c'est la nature prise en elle-même. L'homme, dans son intégrité primitive, pouvait, par ses seules forces, accomplir le bien qui est en rapport avec sa nature, sans avoir besoin pour cela qu'un autre atout lui fût encore un. Ça, c'est très intéressant comme position de saint Thomas, vous comprenez. Parce que ça montre que saint Thomas reconnaît qu'il y a une possibilité de comprendre la nature prise en elle-même, et de regarder le bonheur de cette nature, ce que nous faisons en éthique. En éthique, c'est ce que nous faisons. En éthique, on ne parle pas du status. En philosophie éthique, on ne peut pas dire. Le philosophe français, il regarde concrètement, c'est l'homme. Alors, c'est intéressant de voir comment saint Thomas fait ici. N'oublions pas, cependant, qu'il lui fallait toujours l'impulsion de Dieu premier moteur. Alors, l'impulsion du Dieu premier, prémotion divine. L'impulsion du Dieu premier moteur.
Cet auxilium de l'immoralité. Le secours de Dieu premier moteur. Premier moteur, donc, première cause, qui porte d'une manière très particulière les esprits. C'est la première cause par rapport aux esprits. Donc, c'est cette prémotion première. Or, aimer Dieu par-dessus tout est conforme à la nature de l'homme. C'est même conforme à la nature de n'importe quelle créature, raisonnable ou non. Et même à celle de la créature inanimée, si l'on s'en tient au genre d'amour qui peut lui être demandé.
Au genre d'amour, hein, c'est tout à fait le genre d'amour, ça va très bien. C'est-à-dire. À l'appétit, c'est sur mon bras de synthèse, qu'est-ce qu'il y a vraiment? C'est quoi le modus amoris, vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Ne traduisons pas le modus le genre, parce que c'est juste inverse. Le modus, c'est par rapport à la ratio, il faut comprendre le langage de saint Thomas. Saint Thomas parle des ratios. Ratio, envis. Bon, ça c'est toujours pour montrer la notion analogique. Et par rapport à la notion analogique, nous parlons du modus. Le mode vient préciser la ratio. Tandis que nous avons tout ça, nous sommes ici au niveau connaissance analogique. Au niveau de la connaissance générique, on parle du genre et de la différence spécifique. En étant logique, hein, genre et différence spécifique, on est en présence de notions univoques. La notion univoque se distingue genre et différence spécifique. Dès que vous êtes en présence d'un universel analogique, vous parlez de ration modus. Enfin, il faut le comprendre, hein, ça fait partie d'une technique. Si vous voulez, critique. Notre première manière, notre conditionnement fondamental, c'est de connaître par genre les différences spécifiques. À partir de là, définition. On définit par genre les différences spécifiques. Tandis que par mot douce, par mot dit et ratio, on ne définit pas. On est au-delà de la définition. On est en face de notions analogiques. Les notions analogiques impliquent ratio et mot douce. Alors, traduire, vous voyez, c'est intéressant, traduire un mot douce par genre, c'est curieux, hein, on peut pas dire autre chose. Si l'on s'en tient au genre d'amour qui peut être demandé, si on s'en tient au mode particulier de l'amour, c'est ça, c'est que le modum amoris, qui uniquique creature competere potest. Donc si l'on regarde, si l'on s'en tient au mode d'amour qui à chaque créature peut l'amener. Donc on est au niveau des mots douces. Alors le mot douce correspond à la différence spécifique et non pas au jour. Il y a un double contresens. C'est pour ça quand on dit une fois qu'on fait comprendre. Je ne comprends rien. Très souvent. Donc, c'est difficile, c'est bien, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est obligé de revenir au langage de ça. C'est un langage extrêmement précis, et alors dès que vous le traduisez en disant, vous voyez, traduire mot douce de genre, je ne sais pas si vous sentez, j'aimerais bien vous sentir philosophiquement, parce que traduire mot douce de genre, c'est vraiment tomber dans de la vaseline. Alors, vous n'y voyez plus rien du tout. Alors que le langage, simplement, le mot douce, caractérise la ratio. Alors vous avez la ratio amoris. Oui, c'est très bien parlé d'une ratio amoris. Qu'est-ce que c'est que la ratio amoris? C'est saisir l'amour en tant qu'amour. Oui. Ratio amoris, c'est saisir l'amour en tant qu'amour. Je veux saisir qu'est-ce que c'est que l'amour. Et quand on a vu les 12 déterminations, les 12 descriptions d'amour, c'est l'amour comme amour, tout amour implique ça. Tandis que le mot douce amoris, c'est bel amour. C'est l'amour instinctif, c'est l'amour initié, passionnel, c'est l'amour spirituel. Ce sont les degrés d'amour. Mais vous êtes au niveau du body, vous êtes au niveau des degrés d'amour, des hiérarchies d'amour. Et il y a la ratio amoris qui est fondamentale, c'est la ratio analogique. Vous ne pouvez pas attribuer à Dieu un mot douce, tandis que vous attribuez à Dieu la ratio. C'est le aliquid qu'on voyait hier au soir, c'est le aliquid qu'on attribue à Dieu. On peut attribuer à Dieu l'aliquid. Mais pas le mot douce. Oui. Par la ligne de la ratio, et uniquement par la ratio. Par la bonne éminence, on essaie de saisir comment. Parce que la ratio contient en acte tout ce qu'il y a d'acte dans les mots douces. C'est propre, c'est la différence, vous voyez, entre la coupe, ça c'est toute la coupe analogique. Hein. Les mots douces, les mots dits, sont contenus en acte dans les rationnels. Tandis que la différence spécifique n'est pas contenue en acte dans le genre. Ça, c'est pour ces choses-là, Jean de Saint-Thomas est très. Il y a beaucoup de spéculé dessus. Maintenant, c'est vrai de voir ces deux manières. Et là, il dit des choses intéressantes. Ils m'ont fait bien comprendre la différence entre la notion analogique et la notion univoque. Les deux registres, changement de vitesse, hein. Vous avez deux manières de connaître. Vous avez une manière univoque de connaître. La plupart du temps, on n'est jamais à ce mode univoque. Hein. On est toujours au mode analogique. Et dès que vous êtes en philosophie, dès que vous êtes en théologie, vous êtes au mode analogique. Le mode univoque, c'est la logique. Hein. C'est la logique. C'est intéressant à savoir, parce que c'est le fond. Quand on est fatigué, on va tomber dans le mode univoque. Ça veut dire qu'actuellement, on en tombe dans le mode univoque. Si on a l'habitus métaphysique, on dépasse toujours ce mode univoque. Et on est toujours au niveau analogique, ratio-modi. Genre, différence des idées. Enfin, ça, il faut le saisir, hein, faut comprendre ça, parce que c'est important. Les deux changements différents. Hein. Le changement de la manière univoque de connaître, la manière analogique de connaître. Alors, voyez bien, au niveau des ratios, vous êtes, pour celui qui veut comprendre, on est au niveau de l'appréhension. Dès qu'on est au niveau du maudit, vous êtes au niveau du jugement. Alors, je continue. Or, aimer Dieu par-dessus tout est conforme à la nature de l'homme, c'est même conforme à la nature de n'importe quelle créature, raisonnable ou non, et même à celle de la créature inanimée, si l'on s'en tient au mode d'amour qui peut lui être demandé. C'est ça, au mode d'amour, c'est même pas au genre. La raison en est que tout naturellement, que tout naturellement, chacun désire et aime, suivant la disposition naturelle de son être. On agit comme on est, dit Aristote. Donc la ratio, la raison de tout cela. Vous voyez, c'est ça qui est très difficile dans Saint-Amand. C'est que le ratio ici et la raison dont on est ici, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. La raison en est, la ratio de tout ça, c'est parce qu'à chacun, il est naturel qu'il affecte le désir. Appela, naturel, qu'il appela est amen, qu'il aime quelque chose selon qu'il est atum natum esse. Selon qu'il est capable d'être, selon sa capacité. Si kelim agit, pour nous construire, prod atum natum esse, comme dit Aristote dans la vie. Donc la raison en est que tout naturellement, chacun désire et aime, suivant la disposition naturelle de son être. Chacun, selon la disposition naturelle de son être, il y a la vie. La forme de chacun d'entre nous implique un appétit naturel. Et cet appétit naturel, il suit ce que chacun est, ce qu'il est. Mais il est manifeste que le bien de la partie et pour le bien du tout. Alors ça c'est très important. Manifesto est. Quoi le bonum parti et propter bonum totius. Voyez le grand principe du socialisme appliqué, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est voilà, alors saisir là le grand principe du socialisme absolu. Il faut bien le faire là. Quoi, attention. Manifesto, c'est pour vous dire ça, il est bien manifeste que le bien d'un parti est pour le bien du tout. Il y a une partie de communauté, le bien du tout, c'est bien du monde, c'est un miracle comme chose, hein. Manifestons, c'est manifeste que le bien de la partie, vous êtes une partie dans un tout, et bien puisque vous êtes une partie dans un tout, votre bien c'est pour le tout, sacrifiez-vous pour le tout, le locos, l'hôtel du tout. Mais c'est ça le socialisme intégral, non? C'est le principe que veut Saint-Thomas, oui, Saint-Thomas est socialiste. D'accord? Tout passe. Alors, la partie, hein, elle est pour le tout. Vous ne pouvez pas dire autre chose. C'est intéressant de lire ces choses-là dans un certain climat, parce que ça montre bien comment on peut le comprendre et comment, au Moyen-Âge, c'est passe. Totum, vous voyez, pars totum, hein, cette question de la partie du tout. La partie du tout, c'est très intéressant de voir qu'est-ce que c'est que ce principe. Où est-ce qu'il se situe ce principe? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un principe de causalité? Qu'est-ce que c'est que ce principe? Que la partie est entièrement ordonnée au tout. Ou est-ce que c'est un principe de participation? C'est un principe tout à fait primitif. La partie pour le plus. Manifeste que le bonum parti, c'est le bien de la partie, le bonum parti, la brebis grasse, son plus grand chose, c'est d'être offert sur l'autel du tout, en tant qu'elle est partie du troupeau. Votre plus grande dignité, c'est d'être offert pour le bien des autres.
Certains m'ont dit ça sérieusement.
Par conséquent, chaque objet particulier, être, même dans la vie, un amour naturel, son bien propre, en vue du bien commun de tout l'univers qui est Dieu.
Alors là, c'est encore plus fort. C'est la déification du socialisme.
Vous voyez, vous avez la déification, parce que c'est sérieux. Unde a enim, naturali apiti, dans la vie naturelle, dans l'amour naturel. Chaque res particularis, ama, donc chaque réalité particulière, aime son bien propre à cause du bien commun de tout l'univers qui est Dieu. Identification du bien de tout l'univers et de Dieu. Le socialisme est le point de vue de panthéisme. Le bien, je vois, il faut regarder ça attentivement. Saint Thomas dit ça, pour comprendre, hein, mais c'est intéressant de bien saisir le bien commun de tout l'univers qui est Dieu. Saint Thomas dit. C'est ce qui fait dire à Denis que Dieu fait tout converger à l'amour de lui-même. C'est ce que dit Denis. On voit très bien quelle perspective dans laquelle on est, dans la perspective de la participation, dans la perspective des néo-catholiciens. C'est très vrai, ce sont ces gens-là qui font dire à certains que saint Thomas est purement néo-catholicien. C'est vrai qu'il y a ces choses-là qui sont présentes et qui sont intéressantes à voir. Donc l'homme, dans son intégrité première, rapporter l'amour qu'il avait pour lui-même à son amour de Dieu, qui était la fin. Et il en était de même de l'amour qu'il avait pour tous les autres objets. Donc pour toutes les autres réalités. Et si il y a des lectionnaires, omnium amerum rerum. Il ne faut pas mettre trop objet quand on parle d'amour. Hein. Ça ne va pas jamais objet quand on parle d'amour. Ça, c'est la connaissance. Et similitaire directionnel, la direction qu'il avait à l'égard de toutes les autres choses. Et ainsi, il aimait Dieu plus que lui-même par l'autre. Et ainsi, il aimait Dieu plus que lui-même. Il souffra en lui-même. Mais dans l'état, donc voilà, j'allais dire l'idéal. L'idéal, quand on regarde la chose, c'est vraiment un peu l'idéal. La partie, si vous êtes partie d'un tout. En tant que partie, vous avez un appétit du tout qui est plus fort que l'appétit particulier. Mais dans l'état de déchéance, l'homme n'a pas su se maintenir à ce niveau. Et l'appétit de sa volonté rationnelle, en conséquence, du désordre de sa nature, poursuit son bien privé tant qu'il n'est pas remis en état par la grâce de Dieu. Du stoïcisme pur, Sénèque dit ça textuellement, il dit que la passion fait son aide d'abord le sujet plutôt que tout, et qu'il faut revenir à la voie commune pour essayer de dépasser ce truc là pour connaître, hein. C'est quand même du stoïcisme pur au fond dans Aristote. Essayez de comprendre ça en style aristotélicien, c'est intéressant de voir ça. En style aristotélicien, qu'est-ce que ça veut dire ? On va essayer de comprendre. Il faut donc conclure. Ben, c'est toujours le dirigeant. Saint Thomas se trouve devant des courants très divers. Hein. Il y a le courant stoïcien qui joue un rôle très important. Il y a le courant néoplatonicien de Denis et il y a le courant aristotélicien. Trois aspects. Et Saint Thomas fait la synthèse des trois. C'est parfait, c'est la synthèse des trois. En tant que théologien, il fait la synthèse des trois. Et on retrouve les trois ici. C'est très amusant. C'est un point très amusant. C'est un carrefour. Hein. C'est un carrefour du stoïcisme, du néoplatonisme et de l'aristotélisme. Et je crois qu'en effet, que c'est un carrefour des trois. Quand saint Thomas essaie de citer. C'est normal. Hein. C'est normal. C'est une question très, très difficile, mais très importante. Mais dans l'état de déchéance, l'homme n'a pas su se maintenir à ce niveau de l'appétit, à ce niveau, et l'appétit de sa volonté rationnelle, en conséquence du désordre de sa nature, poursuit son bien privé, tant tant qu'il n'est pas remis en état par la grâce de Dieu. Il faut donc conclure que dans son intégrité, l'homme n'avait pas besoin pour aimer Dieu naturellement, par-dessus tout, qu'une grâce fut ajoutée par surcroît à ses facultés naturelles, bien qu'il lui fallût toujours le secours de la notion divine, donc l'oxygène. Oxygène, on est toujours oxygéné. Adopt et un moralité. Dans la corruption qui suit, rien que pour arriver à cette sorte d'amour, il faut secours d'une grâce qui assainit sa nature, donc grâce salante. Oui, c'est grâce salante, pour prendre un peu mal ici.
Il fait ce, le secours de la grâce salante. Le secours de la grâce salante. On va tout de suite voir. On a encore combien de temps? Parce que c'est un article très intéressant pour saisir comment saint Thomas fait la synthèse éminente de trois courants. Le stoïcisme, le néoplatonisme, l'aristotélisme. Alors, si vous voulez, l'aristotélisme, le stoïcisme, puisque l'aristotélisme est avant le stoïcisme, faut pas l'oublier. Donc, l'aristotélisme est présent dans le stoïcisme, et l'aristotélisme est présent dans le néoplatonicien. Il est présent. Et saint Thomas, lui, va prendre la tradition inverse, vous voyez, parce que selon la couche philosophique, il y a Aristote, les stoïciens, le néoplatonicien. Selon les pères de l'Église, les stoïciens, le néoplatonisme, Aristote. C'est très curieux. C'est très très intéressant comme chose au point de vue de l'histoire de la pensée. Et alors, au point de vue profond, comment saint Thomas va essayer de nous donner ici. Alors, je crois qu'il faut le comprendre. Totum et pars. Il faut essayer de comprendre cela du côté de l'appétit et du l'appétit. L'appétit naturel de la partie. L'appétit naturel. L'appétit naturel de la partie est quelque chose qui fait que la partie, normalement, est plus ordonnée vers le tout que vers elle-même, étant donné plus profondément vers le tout que vers elle-même. Il y a un appétit plus fort, c'est ça qu'on veut dire, plus enraciné, donc plus primitif, et primitif dans le sens justement le plus fort, un appétit plus fort de la partie vers le tout que de la partie vers elle-même. Ceci pour toute partie, parce qu'il s'agit d'un appétit naturel. S'il s'agit d'un appétit naturel, il s'agit de toute partie. Toute partie aime plus le tout qu'elle-même. Vous voyez, vous n'êtes pas un mot psychologique, hein? Ah, quand on parle de psychologie, demandez à un psychologue si c'est vrai. Il ne découvrira jamais cet appétit-là. C'est un appétit naturel, donc il est au-delà de toute la conscience qui peut le vivre. C'est un regard métaphysique, un regard philosophique, si vous voulez, de sagesse, c'est vraiment un regard de sagesse. En voyant que et ce totum, c'est Dieu. Hein? Donc c'est pour ça que c'est un regard de sagesse. Puisqu'on est que ce bonum totum, le bien de l'univers vient de Dieu. Donc c'est dans un regard de sagesse, je peux dire qu'il y a un appétit naturel plus fort à l'égard du tout qu'à l'égard de la partie elle-même. Je suis au niveau de l'appétit, je suis au niveau de l'amour naturel, pas de l'amour initié, de l'amour naturel. Il y a une pente plus profonde, une inclination plus profonde vers le tout que vers elle-même. Alors, comment le justifier? C'est tout simplement, vous voyez, saint Thomas prend tout et parti, Aristote prendrait, lui, le point de vue de la finalité. Parce que par ce totum, hein, c'est le point de vue
n'est pas le point de vue de la finalité qui est premièrement en cause là. Les stoïciens prendront tous les partis. Et Aristote, lui, prend le point de vue de la finalité. Alors, au point de vue de la finalité étant la cause des causes, c'est une cause qui a une influence plus profonde que la cause formelle. Et donc, on peut comprendre à ce point de vue-là qu'il y a vraiment, dans chaque partie, du fait même qu'elle vit, un appétit plus profond vers la cause finale que vers elle-même. Alors, vous voyez comment on peut le traduire en langage stoïcien, en langage néoplatonicien et en langage proprement aristotélicien. Il y a là quelque chose de commun au stoïcisme, au néoplatonisme et à l'aristotélisme. L'aristotélisme le traduit en finalité, le stoïcisme le traduit en partie et tout, le néoplatonisme continue le stoïcisme, puisque c'est bien, le stoïcisme a une grosse influence sur le néoplatonisme, on le traduit en partie et tout. Oui. Mais alors, c'est important de bien voir, justement, ce qu'il y a de commun dans les trois, c'est que la partie s'écrase devant le tout, pour le stoïcisme. Pour l'aristotélisme, la partie est finalisée plus profondément par son bien dernier que par son bien propre. Parce que la fin ultime est plus présente à la fin propre, il ne peut pas y avoir une fin propre sans la fin ultime, au point de vue de l'exercice même de cet appétit. Mais je crois que c'est comme ça que nous devons essayer de traduire, parce qu'autrement, c'est évident, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de voir ça. Alors, vous voyez comment l'application au point de vue de la nature humaine. Regarde sagesse, la nature humaine est une créature. Donc, en tant que créature, elle est tout entière finalisée par Dieu. L'appétit naturel de la créature tend vers Dieu. Il y a un appétit naturel plus profond que l'appétit particulier, qui tend vers Dieu. Et cet appétit naturel est inscrit, demeure inscrit dans la nature humaine. À cause du péché, il y a une proportion vers le point de vue de l'égocentrisme, et à cause du péché, on n'a plus cet appétit naturel vers Dieu. À cause du péché, conséquence du péché, conscience du status. Et c'est au fond, on pourrait dire, dans un langage moderne, la situation limite de la partie, c'est d'être d'abord ordonné vers elle plutôt que vers le tout. Et ceci en raison même du conditionnement dans lequel elle se trouve. Mais profondément, si on libère la partie de ce conditionnement, elle retrouve cet appétit naturel premier vers le tout, c'est-à-dire vers Dieu. Vous voyez ? Appétit naturel, non pas initié, appétit naturel, un appétit qui est inconscient. Un appétit qui s'enracine dans l'essai, dans l'existence même de l'être. L'exister même de l'être est incliné vers sa source plus profondément que vers son propre bien. Et ceci, conséquence directe de cet essai participé. Alors, saint Thomas n'emploie pas le mot participé, hein, voyez bien. Il n'emploie pas. Il emploie le mot farce. Totum. Dans le mot participer, vous avez bien, saint Thomas le dit dans le De Hominibus, dans le De Hominibus, il montre que toute participation, c'est le lien de la partie au tout. Donc, saint Thomas est conscient quand il m'a partie au tout. Il montre bien que la partie est plus liée au tout qu'à elle-même. Et ceci, c'est le fondement de toute participation. Toute participation, c'est le fait qu'on ne reçoit qu'une partie. Si on ne reçoit qu'une partie, on ne peut pas s'enfermer en soi. La partie ne peut pas s'enfermer en elle-même. La partie est ouverte vers le tout. Alors, dans un langage aristotélicien, on ne prendra pas par ses totum. Donc Aristote le prendra en politique, mais au fond, c'est un langage second, c'est pas premier. Dans le langage premier, Aristote va traduire ça dans un langage de finalité. Et dans un langage de finalité, c'est vrai qu'il y a une finalité naturelle qui fait que la partie est plus ordonnée vers le point de vue de sa fin ultime que vers son point de vue de sa fin propre. Oui.
Vous croyez. Les yeux
par-dessus tout, donc c'est l'appétit à l'égard du reste. Et il n'a pas bien d'appétit qui manque à la finalité.
Oui, à la finalité, il y a aussi le droit de question traditionnelle. Une question traditionnelle de la créature partie par rapport à un tout Dieu. Oui. Parce qu'en fait, quand il dit, hein, Dieu, le tout de l'univers, c'est Dieu. Le bien
du tout.
C'est Dieu. Le
tout n'est pas Dieu.
Ben non, vous n'êtes pas Dieu. C'est le bien du tout, le bien extrinsèque au tout. C'est Dieu. Vous voyez ? Donc c'est dépassé. Je crois qu'il y a là un langage de tradition philologique qui est solicien et métatolicien. Et vous avez pas dit, vous n'êtes pas. Ça, il y a toute une question intéressante à voir, parce qu'en fond, c'est très net, il y a un langage stoïcien et néoplatonicien là-dedans. Oui. C'est comme créature. C'est pour ça que ça. Vous voyez, c'est là. C'est ce que je voulais vous dire. Nous sommes dans une vue de sagesse. Laïciser cette vue de sagesse, vous avez le socialisme. Dans une vue de sagesse. Dans une vue de sagesse. Je peux dire que la créature est une partie à l'égard de la sagesse de Dieu. Dans une vue de sagesse, et là qu'il faut faire grande attention. Laïciser cette vue de sagesse, vous avez ça, et vous employez le principe de saint Thomas en disant moyen bien. Saint Thomas lui-même commande toute la partie de la perspective. Il faut sauver le tout, sauver l'État. Alors crevez-vous, ça n'a pas d'importance, vous sauvez l'État. Crevez-vous, il faut à tout prix sauver l'État, parce qu'il est dans un état de danger. Et alors il faut à tout prix sauver. Donc ça n'a pas d'importance, vous êtes une partie. Faites l'holocauste de votre partie sur le thème de Dieu. La sacralisation du tout. Alors, ça ne va plus ça dans une vision de sagesse. C'est Dieu le créateur. Le bien du tout, c'est Dieu. Si vous dites que le bien du tout, c'est Dieu, il faut bien comprendre. Vous ne ramenez pas Dieu au tout et vous mettez le bien étant donné à Dieu. C'est une vue de sagesse, mais c'est très dangereux, vous voyez, dans le contexte d'aujourd'hui. Dans le contexte hegélien d'aujourd'hui, puisque le socialisme est hegélien. Dans le contexte hegélien d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas répondre au socialisme si vous êtes hegélien. Vous êtes obligé d'accepter le socialisme dans les hegéliens. Il n'y a pas moyen autrement. C'est le socialisme intégral, hein, je ne crois pas dire le socialisme pour les économistes. Mais le socialisme intégral, c'est-à-dire considérer que la partie est offerte au tout. Et pour le tout, dans la dialectique, c'est pas fait autrement. Alors, dans le contexte hegélien, vous voyez comme un article comme celui-là pourrait être dangereux. Parce que vous oubliez que pour saint Thomas, la vision de sagesse implique la transcendance de Dieu, implique la liberté du Créateur. Alors, dans une vision de sagesse, c'est pour ça que ce principe, c'est comme toujours, ce principe-là, séparé de la vision de sagesse, c'est terrible. Ce principe, vu dans la vision de sagesse, le totum, c'est Dieu. C'est donc une personne. C'est donc plus un tout. Hein? Mais c'est intéressant, c'est très intéressant, parce que je crois que nous trouvons là les trois traditions. Dépassées dans une vision de sagesse. Nous trouvons les trois traditions. Nous trouvons l'appétit, donc la finalité. Nous trouvons la partie et le tout, le point de vue stoïcien. Nous trouvons que le point de vue de s'enfermer dans la partie, c'est justement oublier le point de vue du totum. Et nous trouvons le néoplatonisme. Oui.
Mais pourquoi au début de la théologie, l'artiste a tant sur cette notion de partie?
Oui, mais c'est parce que c'est le bien particulier. Faisons attention, c'est ça en fait, hein, le bien commun, le bien particulier. Et c'est ça que prendra le stoïcisme.
En ne coupant la finalité. Le stoïcisme prend ça pour pas l'éternité. Le bien du tout est supérieur au divin comparément de la partie. Alors que pour Arzad, c'est pas comme ça du tout. Hein. C'est vu dans une perspective éthique et donc de finalité. C'était très intéressant ces notions-là, parce que ça nous montre comment si facilement on pourrait passer dans une perspective stoïcienne. Oui, et la perspective stoïcienne, comme la perspective hegélienne, ne peut pas répondre au socialisme intégral. Tandis qu'au contraire, la finalité respecte. Il n'y a pas de finalité. La finalité, si on est finalisé par le point de vue d'une personne, on ne peut plus entrer dans le socialisme intégral. C'est impossible. Parce que c'est la personne qui sauve du socialisme. Tandis qu'au contraire, si vous supprimez le point de vue de la personne, c'est-à-dire la vision de sagesse, alors vous avez immédiatement ce principe, la partie pour le tout. Et vous avez ça comme premier principe. Alors la partie pour le tout est un principe second par rapport à la finalité. Il doit être intégré dans la vision de sagesse. S'il n'est pas intégré dans la vision de sagesse, sortez-le,
laïcisé cela, et vous avez le socialisme. Et vous avez l'hégélianisme.
La partie à l'égard du tout. Parce que
une partie, vous voyez, la dialectique consiste à considérer justement qu'une partie distingue une autre partie, thèse, antithèse, synthèse, tout. C'est toujours la même chose. Hein. Vous divisez le tout en deux parties opposées et vous en faites la synthèse. Et c'est la synthèse immanente aux parties. C'est là le lien entre le stoïcisme et l'hégélianisme.
Il y a un lien très fort entre les deux. Parce que à la place de regarder l'aspect du bien transcendant, qui est Dieu, qui transcende, qui est premier, vous regardez le bien immanent.
Par cet auto, vous êtes en immanent. Vous ne pouvez pas en sortir.
Donc réfléchissez sur cet article, parce que ça vaut la peine, vous voyez, on touche là des questions extrêmement intéressantes et actuelles, parce que c'est des questions actuelles, c'est cette question de la partie et du tout, et du bien de la partie et du bien du tout.
Alors comment il faut assumer cela, de voir dans une perspective réaliste de la finalité, de sagesse, du tout.